EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission, vous le savez, a été conçue pour permettre à chacun de nous de grandir à l'image de Christ, devenir un disciple accompli. Un disciple accompli, eh bien, il est comme son maître. Nous apprenons beaucoup de choses en Teach. Et cette semaine, le Seigneur veut nous apprendre quelque chose, je le crois. C'est pas une chose assez facile, mais il faut qu'on l'apprenne. On est disciple de Jésus, allez, il faut qu'on apprenne ça. Je vais parler cette semaine, au courant de cette semaine, on va parler du conflit. De comment un chrétien, un enfant de Dieu, peut-il résoudre ses conflits? On est en conflit avec des gens à tout moment. On est, que ce soit des chrétiens ou de non-chrétiens, à l'église, le pasteur, le frère, les sœurs, à la maison, la femme, les enfants, le frère, les sœurs, le cousin, les voisins, les collègues à l'école. Il nous arrive d'être dans des conditions de conflit, des mésententes ou des contradictions dans nos avis. Comment résoudre ce moment des tensions en restant enfant de Dieu, selon le modèle biblique, comme Christ nous a proposé de le faire, tout en gardant les relations, sans détruire la paix? Comment on peut faire ça? Aujourd'hui déjà, j'aimerais qu'on établisse les bases. Avec le temps, vous avez appris que j'aime toujours établir des bases, les fondements ou les fondations bibliques du conflit. Comment la Bible voit ces choses-là? En résumé, je vous rappelle qu'il s'agira de parler vrai, et aimer fort. Il s'agira de mettre tout son cœur dans ce qu'on est en train de dire en authenticité que possible et d'user de beaucoup d'amour si on veut résoudre les conflits comme il se doit. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ce que je veux de cette première séance, c'est déjà poser un cadre biblique pour aborder un désaccord sans casser la paix. Comment, lorsqu'on est en désaccord, on peut aborder le problème sans casser la paix, sans casser la relation, sans que normalement on n'ait plus jamais à se parler, qu'on entre en inimitié avec quelqu'un. On peut être en désaccord, ça crée un conflit. Mais comment un enfant de Dieu, quelqu'un qui a Christ dans sa vie, quelqu'un qui a accepté de devenir disciple de Jésus, peut-il résoudre ses désaccords? Les désaccords, je les disais tout à l'heure, on les choisit pas, hein. Partout où les êtres humains sont, il y a des désaccords. Souvent, j'ai entendu des gens dire, moi, je vais pas aller dans des églises où il y a des conflits. Je vais juste aller dans une église, voilà, je vais juste aller calmement dans une église, il n'y aura pas de conflits. Et j'ai souvent l'habitude de dire, en riant, si tu trouves une église où il n'y a pas de conflit et que tu t'y rends, c'est que le conflit vient de commencer. Ça veut dire qu'à partir du moment où un être humain est en relation avec un autre humain, la possibilité du conflit est grande. Alors, quand on est enfant de Dieu, la Bible nous donne des clés dans le but de bien gérer des conflits, des clés de réconciliation, des clés de paix. Elle utilise des mots très, très intentionnels. Ici, on va les découvrir. La pensée du mot paix dans la Bible ressort souvent l'idée d'une paix comme vous le retrouvez, mais d'une paix rétablie, d'une paix rééquilibrée, d'une relation ajustée. La Bible utilise le mot « réconciliation », on va le découvrir plusieurs fois ici, qui parle vraiment de remettre les gens activement ensemble. Pas seulement qu'ils s'entendent, mais qu'ils reprennent certaines relations, ils sont actifs. Je vais insister aussi sur la posture du cœur, dans quel état de cœur on doit être lorsqu'on est en conflit. Alors, sans plus tarder, commençons par la première chose. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les fondements bibliques de conflit? Premièrement, j'appelais ça la boussole. Il faut que quelque chose nous oriente dans quelle direction on va. Quelle est la boussole? Réconciliation, pas victoire personnelle. En matière de résolution de conflits, selon le modèle biblique, ce qui nous donne la direction, ce qui nous montre le nord, dans quelle direction on doit aller, c'est le fait de se souvenir qu'il ne s'agit pas ici d'avoir une victoire personnelle. Personne ne gagne en fin de compte. Ce qu'on cherche, c'est la réconciliation et non pas donner nécessairement raison à une personne. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Ça veut dire personne n'aura raison. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'on ne reconnaîtra pas les torts des uns et des autres. Je suis en train de dire qu'on n'amène pas le conflit dans l'idée de donner gloire, de donner plus d'importance, de faire plus d'honneur à une personne par rapport à une autre. L'issue d'un conflit ne doit pas être une victoire personnelle. On ne doit pas sortir de là à un autre et dire « Ah voilà, j'ai gagné ». On n'est pas au tribunal ici. Regardez Jésus en train de résoudre un conflit de façon, l'un des conflits incroyables de la Bible que Jésus résout. Il est là, tout bonnement, on lui amène une femme qui est tombée, qu'on a attrapé en adultère. Et lui, il est en train d'écrire au sol et on lui dit « Bah écoute, Moïse dit qu'on doit lapider cette femme, qu'est-ce que toi tu dis ?» D'une certaine manière, quelque chose les bloquait. Ils savaient que Moïse a dit qu'on doit le lapider. Ils auraient dû le lapider. Ils n'ont pas besoin de la permission de Jésus. Mais on dirait que quelque chose bloque là. C'est sûr qu'ils voulaient le faire pour le tenter. Ils voulaient le faire pour qu'il démontre qu'il est en train d'aller à l'encontre de la loi de Moïse. Comme ça, le peuple irait contre lui et va aller le haïr. Mais au lieu de leur dire, ne faites rien, ne le frappez pas, ne la lapidez pas. Écoutez ce que Jésus fait. Il fait en sorte que personne ne sorte de là victorieux. Il dit que le premier, celui parmi vous qui n'a jamais péché, soit le premier à jeter la pierre. Ce qui m'a toujours fasciné dans ce texte, ce que la Bible dit, ils ont commencé à se retirer du plus grand, c'est-à-dire du plus vieux jusqu'au plus jeune. Pour moi, ça, ce passage-là m'a toujours rappelé le degré de culpabilité de son auditoire. Les plus vieux qui ont beaucoup plus de péchés à se reprocher ont été les premiers à lâcher la pierre et s'en aller. Et les plus jeunes qui ont très peu de souvenirs encore, qui en ont fait 2, 3, 4, et ainsi de suite, tout le monde est parti. Ils sont partis de là, personne n'a eu raison. Mais Jésus a apporté la paix. Lorsqu'on veut apporter la paix dans une résolution de conflit, on ne cherche pas à ressortir celui qui a vaincu, le victorieux. On cherche à mettre les deux personnes ensemble, on va pour la paix, pas pour la victoire. On va pour la paix, pas pour une gloire personnelle. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19. 2 Corinthiens chapitre 5, 18 à 19. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez? Le ministère, pas du jugement de dire qui est plus raison, qui en a moins, mais le ministère dans ce cadre-ci encore, de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en imputant point aux hommes leurs offenses, en mettant en nous la parole de la réconciliation. Regardez comment Dieu a résolu le conflit du péché entre lui et nous. Au lieu de venir pour nous imputer juste nos offenses et dire, vous les hommes, les humains, vous êtes mauvais. Paul nous rappelle ici que Dieu ne nous a pas imputé nos offenses. Par contre, il a mis dans nos bouches la parole de la réconciliation et à travers Jésus, il a amené la réconciliation avec nous. Mes amis, lorsqu'il y a conflit, le chrétien pense réconciliation. Pas d'abord victoire d'un côté. Réconciliation. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Certaines versions disent, heureux le fils de paix, c'est qui amène la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Wow! Fils de Dieu. Oh! Je répète, fils de Dieu. Pas seulement enfant de Dieu, mais fils de Dieu. Et pourquoi on a ce titre-là? Pourquoi on a ça, non pas comme titre, mais comme Jésus présente les béatitudes ici, comme des rémunérations finales. Pourquoi on a ça? Parce qu'on apporte la paix. Parce que où que l'on soit, on amène la paix, la réconciliation active. On fait en sorte que les gens se remettent ensemble. On réajuste les relations. La relation, dans une forme, n'a pas marché. Après qu'on est intervenu, on redonne à la relation une forme qui marche. Souvent, ça, c'est l'un des grands problèmes. J'ai beaucoup reçu cette question-là. On dit, ben, pasteur, maintenant, parce qu'on a eu un problème, puisqu'on s'est réconcilié, on doit reprendre la relation comme elle était avant. Peut-être pas toujours. L'une des choses qui vient de se montrer ici, c'est que dans une chose, une forme que vous avez prise dans cette relation, ça a clashé, ça n'a pas marché. Réajuster les relations. Elles peuvent devenir encore meilleures, ces relations-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne reprend plus jamais ce qu'on faisait hier, avant, comment on était dans la vie, on ne pourra jamais revenir à ce qu'on était avant. Il y a une meilleure vie que vous pouvez vivre ensemble, tenant compte de ce que ce conflit vous a révélé. Pas en se disant, ah, j'ai compris que lui, il est jaloux. Ah, j'ai compris que l'autre ne m'aime pas. Donc, je vais intégrer ça désormais dans ma vie. Non, 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 non. Mais c'est réajuster les relations pour qu'on commence à regarder les choses autrement ensemble. Lorsqu'on est enfant de Dieu, ce qui nous conduit dans les conflits, c'est la paix et non pas la recherche à la raison. D'ailleurs, vous verrez que très souvent, c'est en laissant partir la raison qu'on trouve la paix. C'est en laissant partir cette victoire personnelle qu'on trouve la paix. C'est en se disant, OK, pas de problème, qu'on trouve la paix. Des fois, la paix, on la trouvera jamais si quelqu'un n'est pas prêt à prendre toute sa victoire et la mettre au sol et dire, OK, pas question que je sois victorieux. On trouve la paix. On trouve la paix. Un enfant de Dieu cherche la réconciliation et pas la victoire personnelle. Deuxièmement, le cœur avant la bouche. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est dans un contexte où on pose des fondations ou des fondements pour la résolution de conflits en tant qu'enfant de Dieu. Si j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il faut chercher la réconciliation et non la victoire personnelle, sachez que la deuxième des choses la plus importante, c'est que il faut d'abord le cœur avant la bouche. C'est-à-dire, ne jugez pas d'abord ce que la personne dit, jugez le genre de cœur qu'il a. Oui, pasteur, ce que tu nous demandes, c'est un peu l'inverse de la vie. J'en suis conscient. J'en suis très, très conscient. Dans la vie, on entend d'abord ce que la personne dit. Le cœur bat toujours de la même manière, tout, du moins de ce qu'on entend. Il dit rien, le cœur. Là, si on parle du cœur physique, ce que la personne a dit, il l'a dit. Pasteur, pourquoi tu aimerais que je croie qu'il n'y a pas, il n'a pas pensé à ça? S'il a dit, c'est qu'il a pensé à ça pendant longtemps. Ce qu'il a dit, c'est que ça a toujours été dans son cœur. Je vous assure, tout ce qui sort de nos lèvres n'est pas nécessairement toujours quelque chose qu'on a pris le temps de penser. Ça vient certainement, Jésus-Christ parle du fait que ça vient du cœur, surtout quand il veut parler des types de péchés. Il dit qu'on les a médités avant de les exécuter. Mais si vous voulez juger quelqu'un dans un conflit, si vous voulez comprendre un conflit, prendre position, résoudre un conflit, participer à apporter la clarté dans le conflit, sachez que vous devez savoir ce qu'il y a dans le cœur avant de vous limiter à ce que la bouche a dit. Je m'arrête très clair. La Bible montre une relation très forte entre le cœur et la bouche. Et Jésus est très précis là-dessus. Il dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui le rend impur. Il sort de l'homme les paroles, il cite l'impudicité, il veut montrer que la plupart des choses, ce qui rend l'homme impur, le péché est à l'intérieur de l'homme, et non pas dans les mains qu'on s'est lavé ou pas. Le péché est à l'intérieur, dans les intentions que l'homme médite avant de pouvoir les exprimer. Mais ici, je suis en train de dire que chaque fois que l'être humain parle, ce n'est pas toujours qu'il y a pensé. De fond, on n'utilise pas les bons mots. Et même les mots qu'on a utilisés n'ont pas le même sens chez toi. Si on veut résoudre un problème entre les gens, on ne doit pas se limiter à leurs mots. On peut vraiment être très maladroit. Et souvent, quand vous venez résoudre un conflit, vous verrez que les gens s'accrochent aux mots. Ils font ça. Non, là, quand ça m'a touché, c'est quand il a parlé de ma mère. Ma mère, celle qui m'a pris pendant 9 mois, elle a dit que ma mère m'avait pas bien éduqué. Ah, c'est parti. Et le serait de tout expliquer, ce n'est pas ça que je voulais dire. Moi, j'ai juste dit que ça, c'est une chose que tu peux apprendre chez toi à la maison. Ça, sa mère aurait dû t'apprendre ça. Voilà, tu vois, elle a dit ça. Donc, ma mère ne m'a pas bien éduqué. Le conflit reste parce que chacun restait sur des mots. Si on veut vraiment apporter la paix comme Christ, c'est le cœur qui doit nous intéresser. Luc chapitre 6, verset 45. Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus-Christ, je venais de vous expliquer ce texte-là. Dans ce texte-ci, Jésus veut nous montrer que les intentions, l'état de cœur d'une personne s'exprime par ce qu'il dit. Il dit que quand quelqu'un a un cœur qui est mauvais ou quand quelqu'un a un cœur qui est bon, l'un des instruments qu'il utilise pour le rendre public, c'est le fait de pouvoir parler. Il n'est pas en train de dire que tout ce que l'homme dit, il l'a nécessairement pensé. Proverbe 4:23 dit, Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Mes amis, il y aura toujours une corrélation entre cœur et ce qui en sort, entre ce qu'on pense et ce que l'on dit. Et si vous voulez résoudre un conflit, vous devez aller vérifier entre ces deux choses-là, la connexion, les câbles qui connectent cœur et parole. Alors, je vous propose, ne vous limitez pas aux paroles. Allez chercher d'abord le cœur. Parce que les paroles de l'homme peuvent être très, très limitées. L'homme peut dire quelque chose qu'il ne pensait pas vraiment. Il peut dire une chose qui est basée sur son éducation. Je n'oublierai jamais cette histoire. On était en mission avec le groupe Adorons l'Éternel, Gaël, donc avec le fait papa Alain Moloto. C'était notre toute première fois d'aller un peu vers l'Afrique de l'Ouest. Et on était là, c'était notre toute première fois, on nous reçoit à l'aéroport. Et justement, mes frères de l'Afrique de l'Ouest, ils aiment bien utiliser cet auxiliaire-là. Il faut. Alors, on arrive, il dit, et celui qui nous reçoit au protocole dit, Alain Moloto, il faut venir. Il a foncé les sourcils, il dit, c'est quoi? C'est quoi cette histoire? On arrive, on va dans la voiture, et puis après, une autre fois, il dit encore, il faut. Et puis papa, là, il est scandalisé, il dit, mais monsieur, un peu ténu, pourquoi vous donnez des ordres à tout le monde? Le frère le regarde et dit, il comprend pas pourquoi il est fâché. Il dit, imagine, il faut venir, non? Et là, ça ne s'arrangeait pas du tout. Parce que pour nous, ou chez nous, en Afrique centrale, particulièrement chez nous au Congo, quand tu mets l'auxiliaire, le semi-auxiliaire, falloir là, en disant il faut, c'est que tu donnes vraiment un ordre. Par contre, dans cette partie-là de l'Afrique, quand on dit il faut, c'est vraiment dans l'idée de l'utiliser comme un auxiliaire. Que tu devrais venir, viens. Et ce n'est pas une mauvaise façon de parler, c'est pas irrespectueux. Ce frère était en train de tenter de l'honorer. Et les mots qu'il utilisait pour l'honorer étaient justement les mots qu'il sentait être déshonorés et irrespectueux. Vous imaginez ça? Si vous vous limitez aux paroles, vous n'allez jamais résoudre de conflits. Le cœur d'abord. Mais le cœur du frère s'est révélé. Quand il était scandalisé, en disant, mais c'est parce que j'ai tant de faire. Et que papa Alain Moloto aussi était là en disant, mais non, mais il a pu exprimer son cœur. Il dit, non, mais je sens que tu me manques de respect, là. Il dit, non, c'est pas ça. Et les cœurs de ces deux personnes se sont révélés. Là, il faut à changer complètement de sens. C'était devenu notre blague de toute la tournée. On commençait à se parler comme ça. Il faut venir, il faut... On s'est dit, OK, on a compris ce que c'est. Des fois, les choses qui tiennent un conflit tendu pendant longtemps, ça peut être que des mots. Juger le cœur d'abord, c'est le plus important. Troisième vérité, puissance de la langue. J'ai appelé ça outil de vie. La langue est un outil de vie. Lorsqu'on est en train de résoudre le problème des conflits, autant je viens tout à l'heure, au deuxième point, d'insister, d'aller vers le cœur, autant j'aimerais insister dans la bonne utilisation de la langue. Puisque les gens croiront toujours que ce qu'on a dit vient de notre cœur, ils donneront très peu de temps à aller vraiment vérifier si notre vocabulaire était adéquat. Alors la langue peut causer beaucoup de problèmes avant que les gens ne reviennent à la raison. La langue peut causer l'irréparable. La langue, les gens parlaient. La langue a causé des guerres. Les gens ont parlé, ont mal parlé, parce qu'on a utilisé la langue. J'aime bien, la Bible dit que la langue peut, ça peut allumer tout un feu dans une forêt. Mes amis, la langue est un outil, soit de vie, soit de mort. Utilisez ça comme un outil de vie. Lorsqu'on est en train de résoudre un conflit, de travailler dans un contexte d'un conflit, faites attention sur ce que vous allez dire. En tentant de résoudre un conflit, vous pouvez l'implémenter encore, l'étiser davantage. Proverbe 18:21, écoutez ce qu'il dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Wow! La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Ça veut dire que beaucoup de gens, ce qu'ils mangent aujourd'hui comme fruit dans leur vie, ce qu'ils récoltent comme conséquence dans leur quotidien, nous tous d'ailleurs, ça vient pour la plupart de l'usage de nos mots, de comment nous parlons. Qu'est-ce que nous disons? Écoutez-moi, il y a des choses qu'on peut dire, mais on n'est pas obligé de les dire comme ça. Souvent, quand tu as fini de parler, que tu as débité tous les mots, que tu as frappé sur un verbe que tu voulais à tout prix frapper, et tu as senti comme si toi, tu es dégagé. Je t'assure que la minute qui suit, tu viens de déverser quelque chose dans l'état d'âme de quelqu'un d'autre. Pour que lui se sépare de ce mot dont toi, tu viens de te séparer aisément. Pour que lui s'en sépare, ça peut lui prendre des nuits, des cauchemars. Alors, ne pensez pas que vous avez juste parlé, que vous avez juste utilisé le vocabulaire, vous avez juste utilisé les mots qui sont à votre possession. Ce que vous dites, ça crée, ça fait venir à l'existence. N'oubliez pas, le monde est créé comme ça là, par le pouvoir de la parole. Faites attention à la langue. Vous voulez résoudre un conflit, je vous conseille d'apprendre l'art de se taire, d'apprendre le silence. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il se rend compte qu'il est à un moment crucial. Et qu'est-ce qu'il adopte comme attitude? Silence. Il préfère ne rien dire. Il laisse tout le monde parler. À ce moment-là, il préfère ne rien dire. Quand on essaye de résoudre le conflit de façon biblique, il faudra beaucoup veiller sur ce que la bouche dit. Éphésiens chapitre 4, verset 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, au besoin, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Il dit, mais au besoin, j'aime Paul, il est fantastique. Il dit, mais au besoin, ça veut dire que tu n'es pas obligé de parler. Quand il y a besoin de parler, voilà ce qu'il faut dire. Ça doit être des bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais qu'il ne sorte pas de votre bouche des mauvaises paroles. Les conflits, c'est quoi? Au milieu des êtres humains, souvent, les conflits, c'est quoi? Ce sont les mauvaises paroles. On est au XXIe siècle, on est à l'heure de l'Android, de l'heure de l'iOS, l'heure de la nouvelle technologie, l'heure de l'intelligence artificielle. Même si ce n'est pas toi qui l'as dit et que tu as prompté un IA, c'est toujours ton cœur qui l'a fait dire. Pasteur, je n'avais rien dit. Moi, j'ai juste écrit un message. Il s'agit de l'usage des mots pour communiquer. Écoutez ce que Paul a dit, il faut que vous puissiez être capable de communiquer quelques grâces. Quatrième chose, nous sommes en train d'apprendre les fondations, les fondements bibliques de la résolution de conflits. Ici, moi, je voulais établir des bases pour que chacun de nous s'en souvienne lorsqu'on est devant un conflit. Quand on est devant un conflit, je tiens à ce que nous puissions nous souvenir, selon la Bible, que notre boussole qui nous donne une direction, c'est la réconciliation, pas la victoire personnelle. J'ai insisté sur le fait qu'il faut regarder le cœur d'abord, avant de regarder que dit la bouche. Et je rappelais à chacun que nos bouches, nos paroles, nos langues, ce que nous sortons de notre bouche peut causer beaucoup de dégâts. Et quatrièmement, la posture, l'attitude. Ça doit être fait d'humilité et de douceur. Il faut avoir un mélange des fruits de l'esprit autant en même temps que les dons de l'esprit. Autant il faut un esprit de discernement, autant il faut une douceur. La meilleure posture dans la résolution de conflits selon la Bible, c'est avoir beaucoup d'humilité et de douceur. L'humilité, c'est en fait la capacité de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Considérer la valeur des personnes et considérer comment Dieu le regarde et avoir dans son cœur une attitude ouverte à pouvoir servir cette personne. Ne jamais regarder les autres comme méritant de te servir, mais plutôt le regarder comme méritant de recevoir ton service. C'est ça l'humilité. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et la douceur ici, c'est le fait de choisir intentionnellement les mots et les attitudes pour faire le moindre mal. Pourquoi je dis pour faire le moindre mal? Parce que quelquefois, mal, ce n'est pas ce que toi tu fais, mais c'est comment quelqu'un l'a reçu. Mais aussi longtemps que cela dépend de toi, tu fais des choix pour garder la paix. Jacques chapitre 3, verset 17. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Il montre la bonne sagesse. Il parle de la sagesse du monde, mais il parle de la sagesse d'en haut maintenant. Il fait les qualificatifs de la sagesse que Dieu donne. Quand Dieu nous donne la sagesse, n'oubliez pas, la sagesse, c'est cette capacité d'user des connaissances qu'on a et de pouvoir déduire et de résoudre aussi un conflit. Et quand on use de la sagesse de Dieu, elle est pure. Elle est remplie de paix, modérée, conciliante. Elle est pleine de douceur. Galates chapitre 5, versets 22 à 23, vous connaissez très bien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On veut résoudre un conflit. Il nous faudra absolument de l'humilité et de la douceur. J'ai vu des conflits traîner parce que tu es en face de deux orgueilleux qui s'ignorent. Tu regardes la place, ils appellent ça leurs intérêts personnels, mais tu regardes au fond, tu dis, est-ce que c'est vraiment des intérêts personnels ou bien c'est juste de l'orgueil? Ou alors des conflits qui traînent, pas parce que les gens sont orgueilleux, mais parce qu'il manque de tact. Il manque l'art de se parler doucereusement. Pas parce qu'ils ont monté la voix. Non, la voix est baissée, mais les paroles sont blessantes. Quand on rejoint un conflit en tant qu'enfant de Dieu, il est important de mettre humilité et douceur. Et enfin, prière et onction pour parler droit. La dernière des choses qui ressort souvent dans la résolution de conflits bibliques, c'est qu'il faut mettre la place de la prière et demander à Dieu une qualification surnaturelle pour parler dans la droiture. Mes amis, résoudre le conflit ne demande pas que de tact et de l'art. Le cœur humain est bizarre. Un chrétien, lorsqu'il veut résoudre un conflit, il faut prier. La résolution de conflits, c'est l'un des moments pour lesquels je jeûne le plus dans ma vie. Pas pour les démons. Les humains sont ceux pour lesquels je jeûne le plus. Le cœur de l'homme est la chose pour laquelle je jeûne le plus dans ma vie. Actes chapitre 15, verset 28 dit, « Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de vous imposer d'autres charges que celui qui est nécessaire. » Regardez, ils sont en train de parler d'un conflit fort qu'il y avait à l'église, et les autres églises païennes, qu'est-ce qu'ils devaient manger ou pas. Mais il dit, il a paru bon au Saint-Esprit en nous. Il montre dans quel cadre ils ont pris leur décision. On l'a pas fait seul. On a collaboré avec les capacités surnaturelles de Dieu. Psaume 141, verset 3. La Bible dit, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Observe la parole de mes lèvres. Il dit, mets une garde, Seigneur, que je puisse pas dire n'importe quoi. Et il dit ça à qui? À Dieu. Dit, Dieu, pour que je sois capable de gérer les conflits au quotidien, qui souvent commencent par ce que j'ai dit de mes lèvres. Seigneur, aide-moi à mettre une garde dans ma bouche. Mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez, si en tant que chrétien nous voulons aller vers la résolution de conflits, nous ne pouvons pas ignorer la place et l'importance de la prière, de la qualification du Saint-Esprit pour que nous puissions arriver au résultat final. Je vous en supplie. Donner la place à l'esprit. Parce que les êtres humains, on peut juste être surprenant. Je viens de poser quelques fondations importantes en ce qui concerne la résolution de conflits en tant que chrétien. C'est de quoi on va parler demain. Ça va être l'art de la conversation difficile. Comment on fait quand on a une conversation difficile qui peut être source de conflit? Parce que le conflit commence comme ça. Quelqu'un vient pour pouvoir faire une conversation difficile. Boum. Il vient pour résoudre un problème, c'est là qu'un problème arrive. Si tu as un frère, une sœur, quelqu'un, et vous devez avoir une conversation difficile, comment on fait? Ça, on va apprendre ça demain. Mais pour aujourd'hui, j'ai dit merci du fond du cœur à tous les partenaires de EMCI. Vous tous qui n'arrêtez pas de vous sacrifier et servir Dieu avec nous en donnant de votre temps, de vos prières et en donnant de vos moyens financiers pour permettre à cette œuvre d'avancer. Si vous n'êtes pas encore partenaire avec nous, n'hésitez pas d'aller sur emcitv.com, emcitv.com/don et inscrivez-vous. Donnez ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Et puisque vous m'entendez, et surtout si vous me suivez sur YouTube, n'hésitez pas de pouvoir vous abonner à cette chaîne de EMCI TV. Et pourquoi pas, bien cliquer sur la cloche pour que vous puissiez tout le temps avoir les notifications nécessaires pour votre émission. Dieu vous bénisse et à demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.